La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ces albums et j'ai pété une pile.
Les sujets étudiants.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
Après le deuxième sacre consécutif européen du PSG, une partie de la soirée s'est passée dans le chaos et la violence un peu partout en France, avec 219 personnes blessées, dont 8 grièvement, et 890 personnes interpellées, dont 457 en garde à vue, en hausse de 32% par rapport à l'an dernier, selon les derniers chiffres donnés par le ministère de l'Intérieur. Abribus explosés, bris de verre, poubelles et véhicules incendiés, vélos retournés. Dimanche matin, les stigmates de ce déchaînement de violence étaient encore visibles dans de nombreux arrondissements. Les incidents sont survenus dans de nombreuses villes avant que le calme ne revienne vers 1h du matin. Il y a eu par exemple 18 interpellations à Toulouse où des poubelles et scooters ont été brûlés, 5 à Montpellier pour tentative de vol avec effraction, dégradation et violence sur des agents des forces de l'ordre, selon des sources policières toujours. Les policiers ont notamment essuyé des jets de canettes et de pierres. Des faits similaires ont été constatés à Bordeaux, Rennes, Nantes, Lyon, Nice, Nancy, Strasbourg, Grenoble, Pau, Niort, Limoges, Poitiers, Tours, Cannes, Valenciennes, Angers ou Annecy. En parallèle de ces interpellations, un accident mortel s'est déroulé vers 1h10 sur le périphérique parisien, au niveau de la Porte Maillot. Ce tronçon du périphérique était alors temporairement envahi par des piétons. D'après le ministère public, un jeune homme âgé de 24 ans circulait au volant d'un scooter avec lequel il a percuté un muret en béton disposé en travers de la chaussée pour condamner la bretelle de sortie du périphérique extérieur. D'après le parquet, cette bretelle avait été fermée à la demande des services de la mairie de Paris et faisait l'objet d'une signalisation claire. Des débordements que le chef de l'État a fermement condamnés, jugeant inqualifiables les violences survenues à Paris et dans d'autres villes après le succès parisien à Budapest. Emmanuel Macron a également salué l'action des forces de l'ordre, remerciant le ministère de l'Intérieur, le préfet de police ainsi que l'ensemble des équipes qui se sont mobilisées face à ce qui est inqualifiable. Un mort, un jeune dans le coma, plusieurs policiers blessés, le bilan est lourd après les débordements qui ont suivi le match du PSG. La droite et l'extrême droite entendent bien surfer dessus quand LFI crie à la brutalité policière de l'État. À l'approche de la Coupe du Monde, le débat n'a pas fini de faire rage. Et maintenant, c'est le sommaire. Au sommaire de cette émission, nous recevons Marianne Kermark, présidente de l'Association nationale des étudiants en médecine en France, pour faire un état des lieux de la santé mentale et de la qualité de vie des étudiants en médecine. Et c'est Zoé qui l'interviewera. Du côté du Zoom, nous recevons Martin pour parler du Rugby Fight Tonight. L'édition parisienne se tiendra le 6 juin 2026 au stade Léo Lagrange à Hyères. Et c'est Diane qui l'interviewera. Le Flash Info sera réalisé par Romain, la chronique Actu par Jeanne et la chronique Libre par Gauthier. Et tout de suite, c'est l'interview de la matinale.
La matinale de 19h, 93.9 FM.
Dans cette matinale, nous recevons Marianne Kermark, présidente de l'Association nationale des étudiants en médecine de France. Bonjour. Nous allons donc faire un état des lieux de la santé mentale ainsi que de la qualité de vie des étudiants en médecine. Et vous serez interviewée par Zoé. Bonjour Zoé.
Bonjour. Alors aujourd'hui, la crise du Covid-19 a marqué un tournant historique dans la déstigmatisation de la santé mentale, libérant la parole autour d'un sujet trop longtemps resté tabou. Pourtant, si les consciences s'éveillent, les indicateurs du mal-être, eux, ont grimpé en flèche. Au-delà de la souffrance individuelle, la santé mentale représente un coût économique et social majeur pour la société, estimé à 109 milliards d'euros par an en France, dont 80% de coûts indirects. Alors que 75% des troubles mentaux débutent avant l'âge de 24 ans, les étudiants, âgés majoritairement de 18 à 25 ans, constituent une population particulièrement vulnérable chez qui les conséquences peuvent être dramatiques. Dès 2016, les enquêtes de l'Observatoire de la vie étudiante révélaient déjà une prévalence de la dépression sur 12 mois de 15% et des idées suicidaires chez 8% des étudiants. Des taux bien supérieurs à la population générale, respectivement 10% et 5%. C'est dans ce contexte structurellement fragile que le dernier baromètre de l'Association nationale des étudiants en médecine de France, l'ANEF, s'appuyant sur les enquêtes de la qualité de vie des étudiants en santé, vient dresser un constat encore plus alarmant et spécifique aux futurs médecins. Pour comprendre l'ampleur de cette crise invisible au cœur de nos facultés et de nos hôpitaux, nous recevons Marianne Kermark, étudiante en troisième année à Montpellier, élue en conseil pédagogique pour le mandat 2026-2028 de la faculté de médecine de Montpellier et présidente de l'Association nationale des étudiants en médecine de France, pour rappel encore l'ANEF. Alors Marianne, avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être peux-tu nous présenter ton association et ses missions ?
Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Donc oui, donc en effet, je suis présidente de l'Association nationale des étudiants en médecine de France et c'est une association, donc c'est la seule association représentative des étudiants en médecine dans toutes les facultés de France. Donc il y en a 38 actuellement et donc on a deux versants, on a un versant représentation étudiante avec des revendications, des positions qu'on porte auprès d'instances nationales et ensuite qui sont relayées au local par nos référents. Et ensuite, on a tout un versant projet où on met en place des projets de prévention, de santé publics, d'échanges nationaux, internationaux pour les étudiants en médecine de France.
Très bien. Et d'ailleurs, l'ANEF, enfin ton association, a récemment publié son baromètre sur la qualité de vie des étudiants en médecine basé sur plus de 6600 réponses. Le constat est global et sans appel. La santé mentale de vos pairs est profondément dégradée. Quels sont les chiffres qui doivent aujourd'hui nous alerter ?
Oui, donc on a mené ce baromètre parce que la santé mentale, c'est un enjeu qui touche tout le monde et particulièrement les étudiants en médecine. On le voit dans nos facultés, on le voit au quotidien. Donc on voulait avoir des chiffres concrets sur comment vont les étudiants en médecine et surtout aussi les futurs médecins. On va prendre soin de nos patients, donc c'est important aussi que les étudiantes et étudiants aillent bien et qu'ensuite on puisse soigner nos patients correctement. Donc on a dressé cet état des lieux. Malheureusement, les chiffres ne nous étonnent pas trop. On avait déjà fait des enquêtes santé mentale en 2024. Et en 2020, les chiffres sont les mêmes, voire en pire. Donc malheureusement, on voit qu'il n'y a pas d'évolution et que la santé mentale des étudiantes et étudiants en médecine reste un enjeu majeur.
Et par ailleurs, les femmes et les étudiants en second cycle constituent deux catégories de population par lesquelles la prévalence du syndrome anxieux était la plus importante. Comment cela se fait-il ?
Oui, alors nos études de médecine, elles sont composées de trois cycles. Il y a le premier cycle qui regroupe les trois premières années, ensuite le deuxième cycle qui est de la quatrième à la sixième année. Et pendant ce deuxième cycle, on a la préparation du concours qu'on a en sixième année, concours qui nous permet de choisir notre spécialité qu'on va exercer plus tard, donc durant notre troisième cycle, l'internat, et ensuite en tant que médecin. Et en fait, ce cycle, il est particulièrement à risque parce que justement, on a un concours qu'on prépare sur trois ans qui est tout aussi, voire plus difficile que le concours de première année et donc ça augmente les problèmes de santé mentale et c'est lié voilà, à des soucis de quantité de travail, de stages qui sont très prenants et de conditions de travail et de vie qui ne sont pas au rendez-vous. Donc c'est particulièrement ce cycle qui est touché parce qu'on rentre dans des périodes de révision très intenses pendant trois ans.
Et pour les femmes, comment cela se fait-il qu'elles soient plus touchées ?
Oui, pour les femmes, maintenant on est une majorité de femmes étudiantes dans les études de médecine et on voit dans la société que les femmes sont plus touchées par les violences sexistes et sexuelles et ça se reflète dans les études de médecine. On est aussi au contact de beaucoup de monde, on voit beaucoup de patients, de professionnels de santé qui nous entourent. Dans notre rapport, on met aussi en avant que souvent c'est des hiérarchiques, les personnes qui nous encadrent en stage qui infligent ces violences et donc on est une population à risque, notamment les femmes, et c'est ces violences sexistes et sexuelles qui aussi aggravent la santé mentale des femmes.
Donc pour résumer, c'est bien les VSS, violences sexistes et sexuelles, mais aussi l'intensification et la charge de travail qui font que la santé mentale des étudiants en médecine soit touchée. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs et composantes ou ce sont les deux principales ?
Il y a plusieurs facteurs, donc en effet ça fait partie des principales. L'autre facteur c'est la précarité étudiante. On a des salaires qui sont bien inférieurs aux salaires des autres étudiants stagiaires de même niveau, donc en master 1 et 2. On est à une rémunération qui est entre 219€ et 320€ entre la 4e et la 6e année de médecine. Avant ça on n'a pas de rémunération. Donc c'est aussi des facteurs qui jouent parce que pendant 6 ans on est très mal payé, ça engendre des soucis de logement, d'alimentation correcte, de pouvoir acheter des produits de première nécessité. Donc en fait, c'est des facteurs qui se surajoutent à déjà des études qui sont complexes et qui aggravent encore plus la santé mentale des étudiantes et étudiants en médecine.
Et pour tenir le coup, de nombreux étudiants se tournent vers des substances. Que révèlent vos données sur la consommation d'alcool, de drogues comme le cannabis, le poppers ou le protoxyde d'azote, ou alors le recours massif aux psychotropes prescrits, que ce soit anxiolytiques, antidépresseurs ou somnifères ?
Oui, alors on voit une consommation en effet d'alcool qui est assez importante. Et ensuite, les chiffres sont un petit peu plus bas pour les autres substances, même si ça reste quand même 20% d'étudiantes et étudiants qui consomment, par exemple, du poppers en un mois. Donc souvent, c'est des choses qui sont utilisées pour décompresser un petit peu, même si malheureusement, enfin, c'est le cas et ça devrait pas être le cas. Après, les autres chiffres sont quand même assez bas, mais c'est vrai qu'il y a aussi on n'a pas exactement de chiffres, mais il y a une grande partie des étudiantes et étudiants qui utilisent des traitements antidépresseurs, anxiolytiques ou alors des vitamines, des choses qui peuvent s'acheter en pharmacie librement pour tenir le coup, pour pouvoir mieux dormir, voilà.
Et d'ailleurs, pour en revenir sur près de la moitié des étudiants en médecine qui doivent cumuler une activité rémunérée avec des semaines d'études de plus en plus longues, de 45 heures pour survivre financièrement, est-ce que cette précarité peut aggraver la détresse mentale des étudiants ? Ne risque-t-on pas de réserver l'accès aux études de médecine à une élite financière privant la société de profils plus diversifiés ?
Si, tout à fait. Déjà, ça constitue une perte de chance pour les étudiantes et étudiants qui travaillent pendant les années entre la 4e et la 6e année, parce qu'ils ont moins de temps pour préparer leur concours de spécialité. Et ensuite, on voit qu'il y a un biais, malheureusement, dans les études de médecine, c'est que cette sélection, elle est faite dès la première année par la mise en place d'organismes de préparation privée contre lesquels on lutte absolument à la NEMF. On encourage les tutorats d'entrer dans les études de santé qui sont gratuits pour les étudiantes et étudiants. Et la réforme du coup qui a eu lieu pour mettre en place le PASS et la LAS était justement dans le but de diversifier ces profils pour donner accès aux études de médecine à une population qui n'aurait pas forcément eu accès sans préparation privée. Donc ça commence à marcher, on voit que les profils se diversifient, mais on reste encore dans des études qui sont sélectives et qui ne permettent pas encore l'égalité des chances pour entrer dans les études et dans la suite des études.
Et donc pour pallier à cela, il vaudrait mieux augmenter le salaire des étudiants en médecine ou il y a d'autres alternatives ?
Oui, tout à fait. Déjà, lutter contre les organismes de préparation privée pour permettre un accès à tout le monde de manière égale et avoir les mêmes chances.
Et comment on pourrait les lutter ?
Nous, on soutient les tutorats, du coup, d'entrée dans les études de santé, qui sont des associations qui accompagnent les étudiants, qui proposent des dispositifs pédagogiques de bien-être soutenus par les universités et qui sont gratuits. Donc, nous, on soutient ces initiatives-là. Les tutorats sont extrêmement performants dans leur mission. Et ensuite, sur la suite des études, évidemment, revaloriser le salaire des étudiantes et étudiants en médecine, parce que cumuler un emploi, c'est pas pour le plaisir, c'est juste pour pouvoir se loger, pouvoir manger correctement, s'acheter des produits de première nécessité. Donc évidemment que revaloriser nos salaires, c'est une des grosses positions qu'on porte à la NEMF, même si le contexte budgétaire est compliqué.
Ok. Et d'ailleurs, la réforme il y aura une nouvelle réforme récemment qui va être mise en place et qui met fin à la complexité des voies passe et lasse au profit d'une première année unique et harmonisée dès la rentrée 2027, en sachant que dès 2026, ils vont préparer pour la nouvelle promotion de 2026 cette réforme. Pour les filières MMOPK, médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie, kinesthésie, rapie. Est-ce que cette nouvelle réforme permettra cette diversification des étudiants, justement, ou au contraire, refermera un étau élitiste ?
Oui, donc il y a encore une fois une réforme parce que la dernière réforme date d'il y a 6 ans, donc c'est pas si loin pour une réforme. Le but de cette réforme, c'est en effet de rendre le système plus lisible parce que c'était compliqué de comprendre est-ce qu'il faut faire un PASS, une LAS, quelles sont les différences, comment on rentre dans les filières de santé. Donc là, on va avoir une voie d'accès unique, donc une seule possibilité, pas de choix entre PASS et LAS, mais on va garder l'objectif de PASS-LAS, de diversification des profils, en ayant un bloc de matière santé, donc pour pouvoir préparer les filières de santé auxquelles on aspire, et ensuite un bloc de matières qu'on appelle disciplinaire. Donc c'est d'autres matières qui se ressemblent à des licences. C'est encore à déterminer les matières qui seront dans ce bloc-là, mais comme ça les étudiants pourront choisir des choses qui diffèrent un petit peu des matières santé et scientifiques pour avoir des profils différents.
Eh bien, merci Mariam Kermark et merci Zoé. On écoute tout de suite Emma Bergman, Pixel.
Mon plafond en pixel, j'en attendais pas moi. Logiciel en maintenance, fais le point. Substance artificielle, quand je me sens disparaître. Et les couleurs saturent, les flashs qui durent. J'aime bien cet angle, ça fait des petits points. Substance artificielle pour reset mon cœur qui saigne. Conversation secrète. Au fur et à mesure.
C'était Emma Bergman, Pixel.
La matinale de 19h.
Et nous sommes toujours avec Mariam Kermark, présidente de l'Association nationale des étudiants de médecine en France, pour évoquer la santé mentale et la qualité de vie des étudiants en médecine. Zoé, je te laisse la parole.
Alors oui, j'aimerais d'abord faire un rappel sur les chiffres qui aujourd'hui doivent nous alerter sur le baromètre. Étudiant, est-ce que tu peux nous rappeler les chiffres, s'il te plaît, Marianne ?
Oui, du coup, les chiffres principaux, c'est 52% des étudiants, étudiants qui souffrent de troubles anxieux. On est à un étudiant sur cinq qui a eu des pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois, et ça se resserre à un étudiant sur quatre pendant le deuxième cycle. On a aussi 28% des étudiantes et étudiants qui présentent des troubles du comportement alimentaire. On a aussi, j'ai plus exactement le chiffre, mais beaucoup d'étudiants qui, je crois que c'est une quarantaine de pourcents, qui sont sédentaires pendant leurs études, qui ont arrêté leur activité physique et n'en pratiquent plus, ou pas beaucoup. Et donc voilà, c'est des chiffres qui sont quand même assez alarmants sur différents points de vue.
Et en quoi cette dégradation de la santé mentale des futurs médecins constitue-t-elle une véritable urgence de société qui menace à terme notre système de soins et la qualité de la prise en charge des patients ?
Oui, c'est une urgence absolue. On est des futurs professionnels de santé, on va être médecins, c'est nous qui allons prendre en charge les patientes et les patientes plus tard, et notamment pour des soucis de santé mentale. Donc si les soignants eux-mêmes ne vont pas bien, et là je parle beaucoup de médecine, mais ça vaut aussi pour les autres étudiants dans les autres filières en sciences infirmières, en pharma, en kiné, en maïeutique ou en dentaire, si ces professionnels de santé ne vont pas bien, c'est difficile de prendre en charge des patientes et des patients. C'est difficile d'arriver au bout de nos études qui sont longues, qui sont compliquées. On arrive à l'internat, donc c'est le moment avant d'être médecin, où les étudiantes et étudiants sont déjà à bout de leurs 6 premières années d'études. On a des chiffres aussi assez alarmants sur les internes. Parmi les internes, c'est un suicide tous les 18 jours. Donc c'est des problèmes de santé mentale qui continuent tout au long de nos études, qui s'amplifient. Et ensuite, une fois qu'on est dans le bain, être médecin, c'est très prenant. On n'a pas forcément le temps de prendre soin de soi. On a aussi plus de mal aussi à aller consulter en tant que médecin pour des soucis de santé mentale. Donc c'est une urgence de régler ces soucis à la source quand on est encore étudiante et étudiant, pour qu'on profite de nos études, qu'on puisse les faire correctement, apprendre correctement et ensuite pouvoir exercer et aider l'ensemble des patientes et patients.
Tu dis que c'est compliqué pour les médecins de consulter. Comment cela se fait-il ?
Je pense, alors on n'a pas de chiffres, ou voilà, peut-être que je m'avance un peu, mais je pense qu'en tant que médecin, c'est un petit peu difficile d'aller voir certains de ses collègues en disant « bah là, je vais pas bien, là, je fais un burn-out ». Ça reste encore un petit peu tabou. Heureusement, la parole se délie, et même de manière générale dans la société. La parole s'ouvre sur la santé mentale, sur les violences sexistes et sexuelles, et on ose parler de plus en plus, mais voilà, on est pris dans notre quotidien, on a beaucoup de choses à gérer, et voilà, c'est difficile d'admettre qu'on va pas bien en tant que médecin, alors qu'on est là aussi pour soigner les autres.
Par ailleurs, le baromètre, pour reprendre ce que tu dis, dénonce des taux de violences sexistes et sexuelles à l'hôpital commises en majorité par des supérieurs hiérarchiques, souvent dans l'impunité. Quel regard la société doit-elle porter sur une institution publique qui tolère des comportements destructeurs au sein même du lieu où l'on enseigne l'éthique et le soin ?
Oui, c'est tout à fait révoltant aussi de voir ces chiffres-là. Malheureusement, on essaye de faire des signalements. Alors, il y a beaucoup aussi de victimes qui n'osent pas encore signaler parce que les démarches ne sont pas assez claires, parce qu'elles ne sont pas non plus forcément très visibles. Donc, nous, on fait beaucoup de sensibilisation au dispositif de signalement. Et aussi, on aimerait des réelles sanctions. Souvent, c'est des dispositifs, c'est des procédures qui n'aboutissent pas. Donc, nous, on aimerait des réelles sanctions. Aussi, une formation de toutes les personnes qui nous entourent, qui nous forment. Donc, que ce soit du côté universitaire ou hospitalier, sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, sur les discriminations et sur la santé mentale, pour qu'on n'ait plus ce genre de comportement en stage par les personnes même qui nous encadrent, et qu'on puisse trouver des vraies solutions, parce que c'est vraiment pas possible de se retrouver dans des situations où on est là pour apprendre en stage et qu'au final, il y a des personnes qui se fassent agresser.
Et donc, la sensibilisation est l'une des priorités majeures pour justement pallier aux problèmes de santé mentale et aux autres problèmes. Et comment tu envisages de promouvoir la santé mentale des étudiants à l'échelle nationale ?
Oui, du coup, on fait beaucoup de sensibilisation dessus. Nous, avec la NEMF, donc avec le bureau national, on est composé de 27 étudiantes et étudiants qui sont engagés pendant un an dans l'association. On se déplace beaucoup dans les facultés pour pouvoir faire des amphis. Souvent, c'est en début de rentrée, en début d'année à la rentrée, des amphis pour sensibiliser sur justement les consommations à risque. On sait que c'est les moments aussi un peu festifs de début d'année, surtout en deuxième année en médecine, sur les consommations à risque, sur les signalements, les violences sexistes et sexuelles, enfin sur beaucoup de sujets, pour que les étudiants soient au courant de comment signaler, comment faire. Et ensuite, on continue nos actions sur nos réseaux sociaux, on fait de la prévention, de la sensibilisation. On en parle aussi beaucoup à différents interlocuteurs, notamment la conférence des doyennes et doyens en médecine, donc qui regroupe toutes les doyennes et doyens de chaque faculté, pour qu'on puisse diffuser aussi les messages dans chaque faculté de médecine. On travaille aussi avec le ministère de la Santé et de l'Enseignement supérieur, avec qui on essaye de travailler justement pour trouver des solutions, sensibiliser et avoir un impact et local via nos référents locaux dans chaque faculté et les associations qu'on représente, et aussi nationales par nos actions avec la NEMF.
Et donc, pour toi et pour la NEMF, Quelles seraient les mesures politiques envisageables et possibles et palliatives face aux problèmes de santé mentale des étudiants et qui pourraient justement alléger leurs défis psychologiques pendant leur parcours universitaire?
Oui, alors pour moi, le problème, il faut l'aborder par deux angles. Les dispositifs d'accompagnement, il y en a à l'échelle nationale qui sont mis en place. Il y a le 3114, il y a des lignes d'écoute, Nightline, SOS Amitié. Donc ça, c'est bien pour accompagner les étudiantes et étudiants qui sont déjà dans des soucis de détresse mentale. Maintenant, il faut aussi prendre les problèmes à la source et régler ce qui ne va pas dans nos études, donc ce dont on a pu parler tout à l'heure, nos salaires, nos conditions de stage, former les personnes qui nous entourent, sensibiliser que les universités sachent prendre en charge les signalements, les procédures et tout ça. Et comme ça, on pourra diminuer, on espère, les soucis de santé mentale et ensuite continuer d'accompagner les personnes qui ont encore des difficultés. Mais pour moi, c'est bien d'avoir des dispositifs d'accompagnement, mais si on ne règle pas non plus les problèmes à la source, c'est compliqué.
Très bien. Et dernière question, c'est par rapport à la nouvelle réforme qui va être mise en place et qui met fin aux voies passes et lasses au profit justement d'une première année unique et harmonisée dès la rentrée 2027 pour les filières MMOPK. Donc pour rappel, médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie, kinésithérapie. Et elle est conçue pour être plus équitable et moins lourde. Ce nouveau cursus articule la formation autour de trois blocs complémentaires. Les sciences de la santé qui seront plus allégées, une mineure disciplinaire au choix, biologie, droit et autres, et des compétences transversales comme l'éthique, la communication, etc. La sélection abandonne le concours couperé d'un jour pour s'appuyer sur le contrôle continu tout au long de l'année, exigeant une moyenne minimale de 10 sur 20 dans les blocs principaux. Enfin, le système devient plus humain et ouvert en autorisant un redoublement, en offrant deux chances de candidature à la fin de la première et de la deuxième année, et en élargissant les passerelles pour les licenciés et les professionnels paramédicaux. Est-ce que tu penses que cette réforme allégera la charge mentale des étudiants en médecine ?
C'est toujours une grande question parce qu'il y a des réformes. Après, ça reste la première année d'entrée dans les études de santé. C'est une année qui est compétitive, où il y a beaucoup de monde qui candidate, où ça reste un concours à la fin. Donc c'est vrai que c'est difficile de se projeter. On sait que c'est une année qui restera compliquée pour les étudiantes et étudiants. L'objectif, c'est que la mise en place soit réalisée le mieux possible, qu'on puisse expliquer ça clairement aux étudiantes et aux étudiants, à leurs familles, à leurs parents, où c'est aussi difficile de comprendre cette première année et de pouvoir les rassurer au maximum, parce que de connaître dans quoi on s'embarque, c'est toujours plus facile et on sait à quoi s'attendre plutôt que de découvrir au fur et à mesure cette première année. Donc on espère que ça va permettre au moins que ça soit plus lisible. Après, selon nous, il manque encore des choses dans cette réforme. Là, il y a les derniers détails qui sont en train d'être réglés. On n'a pas encore exactement toutes les informations sur comment ça va se passer, mais pour nous, il y a des choses qui manquent. Les oraux, par exemple, normalement en première année, à la fin de l'année, on passait des oraux pour évaluer les compétences psychosociales, voir comment on se débrouille à l'oral. Et en fait, ces oraux ne seront pas forcément mis en place. Donc pour nous, c'est des choses qui manquent, qu'il faut qu'on ait pour être évalué pour cette première année. Donc on attend de voir la suite de la mise en place de cette réforme, mais l'objectif, c'est qu'au moins elle soit lisible et que nous, derrière, nous puissions l'expliquer aux étudiants, parce que c'est nous en première ligne avec par exemple les tutorats d'entrée dans les études de santé. C'est eux qui rencontrent les parents, qui rencontrent les étudiantes et étudiants, donc c'est à eux d'expliquer. Donc il faut que ça soit compréhensible pour que nous, derrière, on puisse rassurer les futures étudiantes et étudiants en première année de santé.
Très bien, merci Marianne Carmack.
Merci beaucoup.
Eh bien, donc merci Mariam Carmack, merci donc Zoé. On rappelle que Mariam est présidente de l'Association nationale des étudiants en médecine de France et qu'on a fait un état des lieux de la santé mentale et de la qualité de vie des étudiants en médecine. Et tout de suite, c'est le Flash Info de Romain.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
Bonjour Fabien, le rassemblement commence et il se fera derrière nous. Gabriel Attal a conclu son premier grand meeting de candidats à la présidentielle ce 30 mai au parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris. Il est parti en campagne plus tôt qu'Édouard Philippe et même avant sa désignation officielle par Renaissance. La salle était bien remplie, 5000 personnes sont venues de toute la France selon l'organisation et des équipes du candidat vantent aussi les 80 parlementaires qui ont fait le déplacement. Il a appelé ses quatre chantiers prioritaires, école, salaire, frontières et intelligence artificielle, et a affiché des grands objectifs, comme résorber le déficit public en 10 ans et réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre à la même échéance, sans préciser encore la façon d'y parvenir. Le candidat Attal a aussi promis des référendums réguliers, plus de compétences pour les collectivités, un nouveau système de retraite sans âge légal et une refonte totale du modèle social. Vous l'avez sûrement connu à la cantine en retournant vos verres pour vous donner un âge. Duralex, la célèbre entreprise de verrerie, connaît de forts problèmes de trésorerie. Plusieurs salariés ont pu s'en apercevoir sur leur fiche de paie, avec un salaire de 700 euros net. Elle avait cependant fait appel à la générosité des Français l'été dernier, en débloquant 7 millions d'euros qui ont servi à payer une partie des salariés et pas à la restructuration des lignes de production. L'ancienne Française historique s'apprête à demander son placement en redressement judiciaire, son cinquième en une vingtaine d'années, si le tribunal de commerce l'accepte. Et on part au Moyen-Orient, alors que des discussions militaires israélo-libanaises viennent de se conclure à Washington pour préparer de nouveaux pourparlers, Israël a continué d'intensifier ses frappes contre le sud du Liban samedi. Le premier ministre libanais Nawaf Salam a accusé Israël de mener une politique de la terre brûlée, tout en défendant la poursuite des négociations, voie la moins coûteuse pour Beyrouth selon lui. Et un peu de sport. Le PSG a fini victorieux de la Ligue des Champions samedi dernier contre Arsenal, victorieuse une nouvelle fois après des tirs au but, score 4-3 pour l'équipe de Paris Saint-Germain. Et Roland-Garros, Diane Paris, dernière française de Roland-Garros en lice, la 92e mondiale, a perdu son match contre la polonaise Chwalinska. Aujourd'hui, score 6-3, 6-2.
Eh bien, merci Romain pour ce flash info. Et tout de suite, on écoute Francis of Delirium ailleurs.
Feel it, babe. Go on, take me, go on, take me.
C'était Francis of Delirium, ailleurs.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Et je suis avec Jeanne. Bonjour Jeanne.
Bonjour.
Et tu vas nous parler de Roland Garros, c'est ça ?
C'est ça.
Eh bien c'est parti, je t'écoute. Enfin on t'écoute.
Avec plaisir. Pour la première fois depuis 1968, depuis le début de ce qu'on appelle l'ère Open, aucun ancien vainqueur de Grand Chelem ne disputera les quarts de finale à Roland Garros. Près de 60 ans de tennis professionnel et c'est une première absolue. Carlos Alcaraz tenant du titre absent sur blessure, Yannick Sinner numéro 1 mondial sorti dès le deuxième tour, Novak Djokovic triple vainqueur ici même éliminé au troisième. Et côté femme, Coco Gauff, tenante du titre, elle aussi, battue samedi par une joueuse classée 30e mondiale. La canicule, évidemment, tout le monde en parle. Il a fait jusqu'à 33 degrés sur les courts. Une chaleur qu'on n'avait jamais vue à Roland-Garros en mai. Alors oui, les corps ont souffert. Sinner menait 5 jeux à 1 dans le 3e set. Il servait pour le match et il s'est effondré. Djokovic a dit lui-même qu'il tenait à peine sur ses jambes. Or, la météo n'est pas une explication suffisante. Les outsiders qui les ont battus jouaient sous les mêmes 33 degrés. La chaleur était identique des deux côtés du filet. Alors pourquoi les favoris ont-ils craqué et pas leur adversaire ? Parce que la vraie pression, ce n'est pas le thermomètre, c'est le poids de ce qu'on est censé faire. Sinner ne pouvait pas perdre, il était numéro 1 mondial, grandissime favori, quasi seul en lice après le forfait d'Alcaraz. Djokovic, 39 ans, visait un 25e grand chelem historique. Goff défendait son titre. Chacun portait quelque chose d'immense sur les épaules avant même d'entrer sur le court. Et quand le corps commence à flancher sous la chaleur, c'est cette pression-là qui finit le travail. Face à eux, des joueurs que personne n'attendait et qui n'avaient rien à perdre et qui ont joué libre. Personne n'incarne mieux ça que Moïse Kouamé, 17 ans, 318e mondial, invité par la fédération avec une wild card. En se qualifiant pour le troisième tour à seulement 17 ans, il est devenu le plus jeune joueur à réaliser une telle performance depuis Michael Chang en 1988. Au deuxième tour, il a passé près de 5 heures sur le court, mené 5-2 dans le 5e set, dos au mur, et il a renversé le match. Pas parce qu'il était le meilleur, parce qu'il n'avait aucune raison d'avoir peur. Ce dernier a quand même été éliminé au troisième tour samedi, aux portes des huitièmes, face au 36e mondial. Il en ressort avec les honneurs et devient la coqueluche du public. Il y a une joueuse française qui incarne aussi cette histoire, mais à l'envers, on ne la présente plus, c'est Louise Boisson. L'année dernière, elle débarque à Roland-Garros, classée 361e mondiale. Wildcard, elle aussi, inconnue du grand public, elle est allée jusqu'en demi-finale. Première femme à atteindre les demi à son tout premier grand chelem depuis Jennifer Capriati en 90. Cette année, elle revenait avec un statut française à l'ascension fulgurante, puisqu'en sortant de la demi-finale de Roland-Garros l'an dernier, son classement était passé de 361 à 65 pour être à 43 lors de son match. Elle était attendue et scrutée. Elle s'est pourtant inclinée au premier tour, en 2-7, en 1h19 minutes. Autre facteur, elle revenait de blessure, manquait de match et son adversaire était mieux classé. Les planètes n'étaient pas alignées et toutes les excuses étaient pourtant là, on pourrait dire. Mais Boisson elle-même n'en a retenu qu'une. Je regrette d'être arrivée dans ces conditions. Ces conditions, c'est le poids d'être attendue. Et ce soir, une seule grande favorite résiste encore à cette édition qui dévore les certitudes. Aryna Sabalenka, numéro 1 mondial, est devenue la favorite depuis les éliminations successives de Rybakina, Goff et Swiatek. Elle n'a pas perdu un seul set depuis le début du tournoi. Elle joue ce soir en night session contre Naomi Osaka. La première session de soirée féminine à Roland-Garros depuis 2023. Roland-Garros 2026 n'est pas le tournoi où la canicule a tout chamboulé. C'est le tournoi où la pression a montré ton vrai visage. Et ce soir, on saura si même la dernière grande favorite peut y résister.
Eh bien, merci Jeanne pour cette chronique sur... c'était quoi déjà Roland-Garros, c'est ça ? J'ai vachement écouté, oh, je suis méchant. Il est 19h39 sur Radio Campus Paris et tout de suite, c'est... Qu'est-ce que c'est le Zoom ?
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Oh là là, je me suis perdu. Je me suis perdu et donc dans ce Zoom, nous allons parler du Rugby Fight Tonight. C'est l'édition parisienne qui se tiendra le 6 juin 2026 au stade Léo Lagrange à Hyères. Nous recevons Martin pour en parler et c'est Diane qui va s'occuper de l'interview. Bonjour.
Bonsoir, bonsoir Fabien, bonsoir Martin, est-ce que vous nous entendez ?
Bonsoir, oui très bien, je suis accompagné de Léo.
Ah, vous êtes deux, c'est parfait. Alors, pour commencer, on est à quelques jours du coup de votre événement qui se tiendra le 6 juin. Comment vous vous sentez dans les derniers préparatifs ? C'est quoi l'ambiance dans l'équipe ?
Très très excité, on sort tout juste de notre événement à Toulouse là. Très très excité de monter à Paris, de faire notre événement à Paris et de faire vibrer les gens sur notre événement. Sur le rugby et de faire vivre les émotions du RFT aux Parisiens.
Et du coup, alors petite question piège, mais importante. Moi, totalement novice du rugby, j'imagine le rugby comme un truc de gros bourrin. Donc, j'ai cru comprendre que c'était quand même un événement festif. En quoi c'est festif le rugby et en quoi votre événement, il va être pas juste axé sur des gros mecs qui se plaquent dessus?
Ah, effectivement. Alors aujourd'hui, l'avantage, c'est que c'est un rugby à 5. Donc rugby touché déjà, qui est totalement inclusif. Donc ça veut dire que qui dit rugby touché dit plutôt un rugby d'évitement et un rugby qui va permettre à n'importe qui de jouer. Ça peut être, nous on a eu la chance de jouer à notre père jusqu'à 62 ans, on a eu la chance aussi de jouer avec des plus jeunes. Donc déjà le rugby qui est à 5 nous permet à tout le monde de pouvoir participer. Au-delà de ça, vous l'avez dit et c'est très bien résumé, on a une partie tournoi effectivement sportive qui permet d'être dans le sport qu'on aime, le rugby, mais on a aussi une partie animation et soirée qui permet de traiter le festif. Bien évidemment, le sportif reste au cœur, mais on a un petit peu de festif pour pouvoir fêter comme il se doit la troisième mi-temps.
Et comment est-ce que ça s'est monté? Comment est-ce que vous avez eu l'idée de faire ça? Parce que du coup, de ce que je comprends, ça fait partie d'une organisation qui existe depuis maintenant beaucoup plus d'années. Mais du coup, qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu lancer la partie sur le rugby? Parce que vous avez déjà fait le handball, la pétanque, plein de choses différentes. Qu'est-ce qui a fait que le rugby, c'est devenu un sujet à traiter?
Alors déjà parce que c'est le premier événement qu'on a eu, en fait, pour la petite histoire, moi quand j'avais 18 ans, on était dans une petite équipe de rugby et on n'avait pas trop d'argent, on voulait partir en voyage et le président hélas ne pouvait pas nous payer ce voyage à juste titre, hein, parce que les catégories coûtent cher et quand on est 18 ans on est un peu bébête et on ne se rend pas compte en fait de tout ça, de la structure d'un club, des bénévoles, et on a dit au président écoute, donne-nous un peu de sous et on va te rembourser mais on va créer quelque chose. Donc on a commencé d'abord, ça fait partie de l'histoire, on a toujours un peu honte de le dire, mais ça fait partie aussi de l'histoire. Donc on a fait un calendrier un peu osé, on va dire, avec les copains en février. Donc je ne vous cache pas qu'on en a vendu beaucoup grâce aux copains et aux copines, mais qu'il n'était pas beau du tout.
Ah mais d'accord, ça, c'est dommage. Ça nous a permis. C'était un calendrier contre les deux du stade, on va dire.
Voilà, exactement. On n'avait pas les mêmes arguments, si vous voyez.
Je comprends.
Du coup, ça a été très sympa et heureusement les gens ont joué au jeu. Ça a permis derrière après d'avoir une soirée feria, puisque nous, dans le Sud-Ouest, on a beaucoup de feria, donc d'inviter pas mal de copains, pareil, qui ont joué au jeu, des parents et autres. Et a eu lieu après la première édition du Rugby Five Tonight, avec 10 équipes, 90 personnes. Mais voilà, on finit l'année, on va en voyage, tout se passe bien. L'année d'après, en fait, on nous appelle, on dit « c'était sympa les gars, refaites votre tournoi
». Oui, mais en fait, c'était un moment où on a un peu... de ce que je... on a perdu Martin, mais on va le récupérer tout de suite. Juste pour reprendre du coup ce que disait Martin, c'était, je pense que c'est parti un peu d'une idée un peu saugrenue, de partir un peu sur un délire qu'ils avaient juste envie de partir en voyage. Et ce qui est, je trouve, assez intéressant, c'est que aujourd'hui ça existe maintenant depuis plus de 10 ans et aujourd'hui c'est la première édition parisienne en Ile-de-France. Ils ont déjà fait dans des villes extérieures. Est-ce qu'on a récupéré Martin?
Oui.
Ah voilà, on vous a récupéré, tout est sous contrôle. Donc je disais que ce qui est intéressant, c'est que c'est parti un peu d'une idée sur un coup de tête, mais du coup, comment est-ce qu'aujourd'hui vous vivez ça?
C'est assez exceptionnel, je pense que Martin aura aussi son ressenti, parce que moi j'ai la chance d'avoir créé ça et depuis 10 ans, mais ce que j'aime, c'est ça, c'est l'échange des générations et les équipes, et Martin qui est là aujourd'hui pour raconter cette histoire vraiment est folle. Mais je pense qu'aujourd'hui, après 10 ans, c'est beaucoup de fierté surtout, parce qu'on crée des émotions humaines assez importantes. Le rugby nous rassemble, hein, et on va pas tomber dans le sentimentalisme, mais ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on se rend compte en fait que les gens sont contents de venir à notre événement. Nous, l'équipe, elle ne change pas sur les événements, donc on est content aussi de donner ces émotions et de donner quelque part du plaisir, hein, dans ce qu'on fait. Et en fait, on est fans de voir tout ça. Et là, après 10 ans, c'est une grande, grande fierté de voir déjà le sport grandir, comme vous l'avez dit, avec 5 villes en France. Et surtout après, de voir tous les petits jeunes qui nous accompagnent, comme Martin aujourd'hui, et qui prennent énormément de plaisir, et qui se développent aussi à travers ces projets-là. Et du coup, on a une mission qui, moi je pense, est importante, que ce soit, soit dans l'événementiel, ou soit auprès des autres qui sont tous exceptionnels, quoi.
Et pour rebondir du coup sur ça, dans vos démarches, vous avez notamment un sujet sur la réinsertion sociale, etc., mais c'est aussi sur la sensibilisation au handicap. Comment vous les mettez en place dans ces événements et surtout comment est-ce que c'est venu? Est-ce que c'est venu dès le début de se dire que vous avez envie de créer un événement qui est inclusif, ou est-ce que c'est petit à petit en créant les événements que vous vous êtes rendu compte de ce besoin aussi pour le public?
Ça a été plus petit à petit, parce qu'au tout début, pour être totalement transparent, en fait, on n'avait aucune base de ce qu'on faisait. C'est-à-dire qu'on était juste des jeunes un peu motivés, un peu foufous, qui avaient envie de faire plaisir aux gens.
Et après, on s'est rendu compte qu'en plus de faire plaisir aux gens, on pouvait passer des messages. Et aujourd'hui, c'est la chance qu'on a. On travaille avec plein d'entités assez fortes. Aujourd'hui, on a la chance d'être une marque quand même, potentiellement pas très connue forcément dans le territoire parisien. Mais par contre, en France, dans le milieu du rugby, on a cette chance-là de commencer à être connu. On s'est dit, ok, c'est cool, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour dire aux gens, regardez, en fait, il y a d'autres formes de rugby. Et c'est comme ça qu'on a commencé à mettre en place le rugby fauteuil, le rugby CC rugby sur nos événements, voilà, où on essaye de mettre partout. Des fois, on y arrive, on a des partenaires qui peuvent participer, des fois non, mais c'est toujours effectivement quelque chose d'important à nos yeux, parce que tout le monde peut jouer au rugby, tout le monde peut s'éclater dans cette pratique, et ça, c'est notre rôle aussi qu'on se donne, de venez découvrir tous les rugby et surtout vous éclater.
Et sur l'aspect réinsertion sociale, du coup, parce que vous avez parlé surtout de l'aspect handicap, mais sur l'aspect réinsertion sociale, comment vous l'avez mis en place ?
Alors, sur la partie réinsertion sociale, on travaille quelquefois avec plusieurs services. Je pense notamment à l'EPID, à Bordeaux, notamment, où on vient intervenir sur des choses très simples, du rugby à 5, on vient encadrer, on vient faire des photos avec eux, on vient jouer. Clairement, le but, c'est de faire découvrir la pratique, mais au début, de ne pas aller plus loin, parce que ça reste des publics, en fait, qui ne connaissent pas forcément le rugby. Et après, on a aussi d'autres personnes. Je vais parler de nos confrères aussi, le Rugby No Limit, qui est un très bel événement et qui travaille beaucoup sur ça aussi, avec qui on est quelquefois en relation et qui viennent, par exemple, avec leurs joueurs sur nos événements pour travailler cette réinsertion sociale aussi.
Et juste, pour l'EPID, parce que je pense qu'il y en a qui ne connaissent pas cet acronyme, est-ce que vous pouvez préciser ce que c'est ?
Alors, sur l'acronyme, je ne me permettrai pas parce que les pauvres,
C'est quel type de public en tout cas ?
Mais voilà, mais je peux expliquer effectivement. Alors, ça va être des jeunes entre 17 et 25 ans qui sont en réinsertion, qui ont eu plusieurs problèmes dans la vie. Et c'est un peu une école, de la dernière chance. Et plus dans l'esprit, c'était sous le ministre des Armées à l'époque. Et du coup, on a un peu un côté militaire réinsertion qui permet de. C'est un peu une école de la dernière chance. Étatique qui permet aux jeunes de se retrouver et de se dire allez, je vais pas me planter, je vais essayer de faire quelque chose. Et c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et on a voulu s'y engager parce que les personnes avec nous qu'on a rencontrées, notamment à Bordeaux, parce qu'on est beaucoup avec la ville de Bordeaux sur ça, sont assez exceptionnelles. Quand on voit le travail des agents, le travail du directeur et le travail des personnes aussi qui sont des jeunes, on se dit c'était notre devoir aussi d'aider à notre échelle, parce qu'on y revient. Nous, on est personne, on essaie juste de faire plaisir aux gens et d'amener un peu de beauté dans ce beau monde, pour dire des choses comme ça.
Et c'est un beau projet. Et d'ailleurs, sur l'aspect du coup, sur l'événement, de ce que j'ai compris, on va parler de concerts, il y aura aussi des thématiques, enfin une thématique originale chaque année, une dotation aussi de qualité avec des entrées de personnalités. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus en détail et surtout, qu'est-ce qu'on va y retrouver ?
Alors ça, c'est une grosse partie du travail tout au long de l'année, de nos événements, de préparation de nos événements, où en fait, on décide de choisir un thème où tout l'événement va tourner autour de ce thème. Alors cette année, c'est América Latina, donc l'Amérique latine. Toutes les animations autour sont imaginées par rapport à l'Amérique latine, la soirée, les musiques. Après, on travaille avec des influenceurs. Par exemple, Le Fish, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un influenceur rugby, toujours en lien avec nos événements. Et ça permet en fait de donner vie à l'événement. Et le fait d'avoir un thème, ça permet aussi de ne pas se perdre et de toujours avoir une ligne conductrice dans notre travail. Et c'est ça qui plaît aussi, c'est ça qui met de l'ambiance. Cette année, par exemple, à Toulouse, on a travaillé avec une entité une école de salsa qui permet en gros l'initiation à la salsa, la découverte de la salsa.
Super.
Et ça collait parfaitement au thème de
l'événement de et de l'année, oui.
Voilà, exactement, ça a énormément plu. Et après, sur un événement comme Paris, ça va être des animations, parce que après entre la partie phase de poule et phase finale, on a une entracte pour que les joueurs se reposent, et en même temps avec des animations pour que l'événement garde cette vie-là, et que les joueurs, le public puissent profiter de l'événement dans sa globalité.
Vous êtes déjà allé en Amérique latine ?
Moi, non, pas du tout. Mais
non.
Mais...
Eh ben, écoutez, c'est l'occasion.
Voilà, c'est le prix d'un billet. C'est aller en Amérique latine sans prendre un billet d'avion, comme quoi.
C'est exactement ça.
Et marge écologique et économique.
Totalement.
Merci beaucoup, Martin et Léo, d'être venus par téléphone, mais d'être venus à Radio Campus pour nous parler de votre événement. On rappelle que du coup, c'est le 6 juin en région parisienne, mais que si vous n'êtes pas de Paris, vous pouvez aussi découvrir les autres événements dans toute la France, et on peut vous suivre directement sur vos réseaux sociaux pour avoir les infos.
Exactement.
Ça. Et on en profite aussi pour vous remercier et dire un grand bravo pour tout votre travail.
Merci.
Je pense que Martin ira un peu plus dans le détail, mais nous, on a adoré travailler avec vous et c'est un honneur de pouvoir discuter du projet avec vous parce qu'on sait toute la passion
beaucoup.
Qui anime votre radio et c'est exceptionnel.
On va se quitter et on vous remercie encore de votre appel. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Eh bien, merci Martin, merci Léo, merci Diane. Et tout de suite, on écoute Ezra Collective, Only Love.
I will never learn. If I never love, I will never feel. And if I never feel, I will never grow. I know about the sirens, but we got away. I'm coming from a poverty, but we still make a way. They had me living bell, and then they sent me jail. Now I'm feeling like a sailor, trying to navigate. I'm on a second landing, puffing it, yeah. We're sleeping on free flow, we puffed in vape. I don't like pride, I stay away from ego. I know about respect, disrespect get handled. I know about pain, I felt a million times. People I love die while I'm locked up in a cage. I be feeling heartbreak, yeah, I can't escape. But my soul getting stronger, the mind can't break. As
it's
you can
see.
In the flesh, living life after death. No spears and arrows, we got sweets in hell. Catch a survival, we don't like the violence. But you know, lacking could just stop me breathing. Yo, everything great, nothing like the gold pavement. Surrounded by blocks full of drugs and poverty. Postcode wars where the land discriminates. Suicide rise, people losing their sanity. House full of strong roots, food full of fallen fruits. What's a brother meant to do when the streets got no rules? I never want to carry tool, but I'm from an up block. Crazy people everywhere won't hesitate to drop my body. Xbox on river milk, I'm juicing. Talks off poly from my 88 vaping. AEP stack, so they send man to basic. I'm far from basic, higher than standard.
It's only love. It's only love, only love.
C'était Ezra Collective, Only Love sur Radio Campus Paris.
La matinale de 19h, Radio Campus Paris.
Et la matinale se termine, mais avant, nous avons Gauthier dans le studio. Gauthier qui vient nous faire une nouvelle chronique mystérieuse.
Bonsoir, cette semaine c'est ma 81e chronique sur ces ondes et cette semaine c'est un peu particulier parce qu'il s'agit de la toute dernière semaine de deux de nos services civiques, Jeanne et Aude, pour lesquels j'ai une grande affection. Et comme cette année je n'ai pas fait une seule fois le prouveur en sortant mon ukulélé, j'ai décidé de le faire une fois en votre honneur. Profitez-en parce que ça n'arrivera plus avant. Wouh! Rappelez-vous, c'était en septembre que Jeanne est arrivée là de RCP. Elle est une membre vraiment, vraiment très fiable. Mais toute seule, c'est difficile de bien tout gérer. C'est pour ça que dans la team, c'est rajouté Aude, Aude, Aude. Jeanne et Aude, ce sont deux personnes très sympathiques.
On n'a jamais fait de celle-là.
Jeanne et Aude, c'est la fin de leur service civique. Jeanne et Aude, elles vont nous manquer toute notre vie. Jeanne et Aude, en tout cas pendant genre de lundi. Vous vous demandez sûrement ce que j'ai dans le crâne pour faire une référence aussi ancienne, car 20 ans avant votre naissance, c'était déjà terminé. Mais Jeanne et Aude sont devenues de super copines. Jeanne et Aude, enfin, j'en sais rien, mais j'imagine. Jeanne et Aude, j'ai des références de quarantenaire. Jeanne et Aude, je suis plus très très loin du cimetière. Je veux pas être trop flippant, mais depuis que je suis à l'antenne des services civiques vivants, y'en a plus trop quand même. Chaque duo s'est retrouvé avec un couteau dans le cœur. Aïe, Jeanne et Aude, profitez de vos derniers instants. Jeanne et Aude, le tueur est dans le bâtiment. Jeanne et Aude, j'essaye simplement de vous prévenir. Jeanne et Aude, merci à vous pour tous ces souvenirs. Vous allez beaucoup nous manquer, même si vous restez en vie. Mais je crois que j'entends débarquer dans Radio Campus Paris un suspect qui est tout désigné. Je vous conseille de vous enfuir. Jeanne et Aude, elles sont deux... Oh là, j'entends un tranquille souffle du studio, c'est lui. Ravi de vous avoir connu. Oh, Marie? Mais c'est Marie! Salut Marie! Alex? Lucas? Héloïse? Maïwan? Alice? Oh, ça fait trop plaisir de revoir! Ce sont les anciens services civiques. Finalement, tout va bien. J'ai lu le mauvais journal, ils ne sont pas du tout morts. Les infos étaient fausses finalement. Bon, leur corps paraît anormalement désarticulé, mais je décide de ne pas y prêter plus d'attention que ça, car je tiens à ne pas faire de cauchemar cette nuit et accessoirement à ma vie. Jeanne et Aude, bonne continuation et surtout, bonne chance.
Merci!
Eh bien, merci Gauthier pour cette chronique sur Jeanne et Aude qui décidément ont eu les honneurs d'une chronique et puis d'un édito. Et la matinale est terminée. Merci à Mariam Kermac, présidente de l'Association nationale des étudiants en médecine. Merci à Zoé, merci à Martin du Rugby Fight Tonight, merci à Diane, merci à Romain pour le Flash Info, à la chronique Actu, c'était Jeanne qu'on remercie, Gauthier pour sa chronique sur Jeanne et Aude, à l'AREA c'était David, la coordination était donc réalisée encore une fois par Jeanne et Aude. Demain nous retrouvons Maëva Rouget, mouvement pour le mouvement pour une alternative non violente. Loi de programmation militaire 2024-2030. À suivre Salikoa, une émission littéraire qui cherche d'autres façons d'appréhender la littérature. Passez une bonne soirée sur les ondes de Radio Campus Paris. À demain 19h pour une nouvelle matinale.